choses en main. Et donc ce soir, j'aimerais prendre un message que j'avais donné il y a un certain temps, je ne sais pas combien de temps, mais je l'ai retravaillé parce que je n'étais pas satisfait. Et le titre, c'est « La part de Dieu et la part de l'homme ». Dans la foi, évidemment. Et on est souvent un peu en balance entre les deux. Quelle est la part de Dieu? Quelle est la part de l'homme? Il y a ce proverbe populaire. Quand on demande aux gens, est-ce que vous connaissez un verset de la Bible? Souvent, ils disent cette phrase. Oui, j'en connais un. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et justement, ça n'est pas dans la Bible. C'est la seule phrase qui parle de Dieu qui n'est pas dans la Bible, et c'est la seule qu'ils connaissent souvent, soi-disant, de la Bible. « Aide-toi, le ciel t'aidera », c'est-à-dire, en gros, prends les choses en main, et puis, si Dieu t'aide, tant mieux, s'il ne t'aide pas, tant pis, mais toi, tu auras pris les choses en main. C'est vraiment un proverbe populaire, humaniste, qui n'est pas dans la foi, parce que la foi ne dit pas ça. Justement, c'est même contredit. Par exemple, prenons Jean 3,16, c'est Dieu qui commence. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu a tant aimé afin que quiconque croit. Donc, il y a Dieu et puis il y a quiconque croit. Ça, c'est notre part hein, au retour. Mais ce n'est pas à nous de commencer les choses et à Dieu de nous aider. La vie chrétienne ou la foi, ce n'est pas « viens à mon aide ». Ça, c'est ce qu'on trouve dans les religions qu'on appelle païennes, c'est-à-dire qui ne sont pas chrétiennes ou qui ont une origine très ancienne qui est en dehors de la Bible. Les religions païennes sont « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est-à-dire, on est toujours en train de demander au Dieu, au pluriel, de nous protéger, de venir à notre secours, de ne pas nous tomber dessus. Et on fait sa vie comme on veut, mais on demande au Dieu de nous aider. Et il y a des personnes qui abordent la vie chrétienne comme ça, ou la foi chrétienne comme ça, et disent, voilà, moi j'ai ma vie, j'ai ma volonté, voilà ce que je veux faire, j'espère que Jésus va m'aider. J'espère que Dieu va m'aider. Et quand ils prient, ils demandent à Dieu qu'il les aide dans leur projet. Mais plus on lit la Bible, plus on découvre la vie et la personne de Jésus-Christ, plus on comprend que ce n'est pas ça. C'est moi qui me cale sur les projets de Dieu. C'est moi qui me mets en relation avec Dieu pour faire sa volonté. Et ce n'est pas ma volonté qui doit être bénie par Dieu, c'est la volonté de Dieu que je dois bénir à la place. L'initiative vient toujours de Dieu, pas des hommes. Alors, il y a des extrêmes sur cette idée de la part de l'homme et la part de Dieu. Un premier extrême, c'est l'extrême du Dieu lointain. C'est-à-dire un Dieu qui est sur son trône depuis le ciel, qui voit les êtres humains comme des mouches ou des fourmis, comme vous voulez, et qui a son plan. Et les êtres humains, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de subir le plan de Dieu. Le fatum, on dit en latin, le destin, et ça te tombe dessus. Et souvent, hein, on entend des gens qui disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Ou « Pourquoi moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de chance ?» Pourquoi je suis poursuivi par la malchance? Qu'est-ce que Dieu me veut pour me punir comme ça? Ils ont cette idée qu'il y a un destin. Dans l'islam, on croit beaucoup à ce Dieu lointain. Allah est un Dieu extrêmement lointain. On n'a pas de relation personnelle avec Allah dans la religion musulmane. C'est une des différences avec la foi chrétienne. Et on dit « Inch Allah », c'est-à-dire hein, c'est, tout revient à Allah, c'est lui qui décide. Donc, s'il veut me sauver, il me sauve. S'il veut me perdre, il me perd. S'il veut me bénir, il me bénit. S'il ne veut pas me bénir, il ne me bénit pas. C'est Allah qui décide. Moi, je ne suis qu'un pion, une fourmi là, qui subit ce Dieu lointain. Or, la Bible ne révèle pas du tout un Dieu comme ça. Dieu n'a pas tout prédestiné à l'avance. La Bible nous dit que Dieu a une préscience. La préscience de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu sait tout à l'avance, oui. Il sait tout. Il sait tout ce qui va se passer, comment ça va se passer. Mais il n'a pas tout décidé lui-même à l'avance. Comment c'est possible? C'est que Dieu a tout prévu, tout préconnu, pardon, mais il laisse toujours un choix à ses créatures. Il a laissé un choix aux anges, ce qui fait que l'ange près de Dieu est devenu Satan, il s'est révolté, et il a entraîné d'autres anges qui se sont révoltés à sa suite. Et puis, bien sûr, l'être humain, il nous a laissé un libre arbitre, nous pouvons désobéir. Bien que Dieu sache à l'avance qu'on va désobéir, donc il prévoit tout en fonction de notre obéissance ou notre désobéissance, mais il n'a pas décidé qu'on désobéirait. Dieu n'a pas prédestiné que Satan deviendrait Satan ou que nous, on serait désobéissants. Dieu n'est pas ce Dieu qui est implacable, qui vous tombe dessus, vous ne pouvez rien faire. C'est ça qui est particulier avec le Dieu de la Bible. Il entre en contact avec ses créatures, il les crée libres, il y a donc une part de Dieu et en face une réponse de l'homme, un choix d'obéir ou de ne pas obéir. L'autre extrême, c'est l'inverse, c'est le Dieu faible. Vous savez, les parents un peu qui laissent faire tout à leurs enfants, qui disent « Oh mon pauvre petit chouchou, oh mais oui, tu voudrais ça, mais je vais te l'offrir tout de suite. Oui, mais qu'est-ce que je peux faire ?» Et voilà. Et c'est des parents qui ne disent jamais non à leurs enfants, qui ne veulent pas les contrarier, et l'enfant devient capricieux et impossible à vivre. Et certains voient Dieu comme ça, une sorte d'être faible, et c'est l'homme qui doit gouverner Dieu. C'est l'homme qui est Dieu, qui est son propre Dieu, et Dieu doit m'obéir. Dieu doit se soumettre à mes plans, à mes projets. Ça, c'est l'autre extrême du Dieu faible. Le Dieu de la Bible n'est pas du tout comme ça. Regardons un verset important de la Bible, Ésaïe 57, verset 15. Ça résume un peu l'idée ici. Ainsi parle le Très-Haut, déjà le nom, hein. Il est très haut, oui, très élevé, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, oui, dans la sainteté. Mais, et là il y a un mais, je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Donc Dieu est souverain et tout-puissant. Il est le Créateur, il est le Dieu vivant, le Dieu saint, le seul juste, le seul parfait, celui qui commande toutes choses, tout doit lui obéir. Mais tout en étant ce Dieu extraordinaire, il est aussi près des hommes contrits, des hommes humbles. Il vient vers nous, il descend vers nous, il s'humilie. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Alors, quelle est la part de Dieu et la part de l'homme dans le salut ? Il y a beaucoup de gens qui essaient de mériter leur salut. Ils pratiquent leur religion en pensant que plus ils pratiquent, plus ils seront acceptés par Dieu et donc sauvés au final. La plupart des religions sur la terre fonctionnent comme ça. Il faut essayer de plaire au Dieu de sa religion, de le satisfaire pour qu'au jour du jugement, ce Dieu dise « Bon, bah, écoute, tu as fait quand même pas mal d'efforts. Je crois que tu as bien travaillé, tu mérites ton entrée au ciel ou dans le paradis, quel qu'il soit. » Ça, ce sont les religions humaines. Maintenant, quand on lit la Bible et l'Évangile, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas l'homme qui monte, c'est Dieu qui descend, encore une fois. Pour beaucoup, la religion est une échelle, hein, et vous avez des barreaux à gravir, et vous montez un barreau après l'autre dans votre échelle, et puis l'échelle, vous ne voyez même pas la fin parce que ça arrive dans le ciel. J'espère qu'un jour je vais entrer au paradis, j'espère qu'un jour je serai allé assez haut dans mes prières, dans ma consécration, dans mon renoncement, mes sacrifices, mes pèlerinages, dans mes jeûnes. J'espère qu'avec tout ça, Dieu va voir que je suis vraiment un bon croyant et il va m'accepter avec lui. Mais dans la Bible, il y a une échelle, mais ce n'est pas dans le même sens. Si vous regardez dans Genèse 28, verset 12, il y a l'échelle de Jacob. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage dans la Bible. Jacob est en plein désert, il dort la nuit, dehors, et là, il a un songe. C'est Dieu qui lui parle dans ce songe. Il voit une échelle appuyée sur la terre et dont le sommet touchait au ciel. Et qu'est-ce qui se passe sur cette échelle ? Des anges montent et descendent. Et ensuite, Dieu parle à Jacob et Jacob dit « J'ai vu Dieu là, dans ce lieu. » Dans cette échelle, ce n'est pas Jacob qui doit monter. Dieu ne dit pas à Jacob « Monte !» Qu'est-ce qui monte et descend là ? Ce sont les anges. C'est Dieu qui vient à travers, là, dans l'Ancien Testament, Dieu se manifeste beaucoup par les anges, parce que le Messie viendra plus tard, même si on pense que le Fils de Dieu s'est déjà manifesté sous la forme de l'ange de l'Éternel, hein, dans l'Ancien Testament. Mais les anges descendent des mondes, ça veut dire Dieu descend, Dieu se révèle. Ce n'est pas l'homme qui doit monter, gravir les échelons, c'est Dieu qui doit venir le chercher. La Bible nous montre qu'il est impossible de mériter son salut. C'est impossible. Ce n'est même pas la peine de commencer à essayer de prendre les premiers échelons. On ne peut pas se sauver. Pourquoi ? Il y a deux raisons majeures. La première est en Romains 3, 23. Vous devez le connaître par cœur. Hein. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Et l'original, là, qui est bien traduit en anglais, tous sont trop courts pour la gloire de Dieu. Hein, en anglais, come short. Et c'est vraiment le sens du mot dans la langue originale du Nouveau Testament. On est trop court pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que justement, on ne peut pas atteindre la gloire. On est coupé. La gloire de Dieu est trop sainte pour nous. On en est privé. Hein, c'est-à-dire, c'est interdit à l'homme d'entrer dans cette gloire telle qu'il est. Il faut qu'il soit lavé, purifié, justifié pour pouvoir avoir cette gloire. Mais en lui-même, l'homme est privé, trop court. Deuxième raison, c'est Nombre 14, 18, on peut le lire. L'Éternel, vous pouvez le lire à haute voix, comme ça vous participez aussi. L'Éternel... pour innocent, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Ce que j'aimerais souligner là, c'est que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Ça veut dire que si quelqu'un est coupable, il doit y avoir une punition. Dieu n'efface pas les péchés comme ça. Ah oh ben toi, t'as fait un crime, bon ben c'est pas grave. Tu vas au ciel quand même. C'est pas possible. Ce n'est pas le Dieu saint, le Dieu juste. Pour que Dieu puisse effacer les péchés de quelqu'un, il faut que ses péchés aient déjà payés, punis. Tous les péchés qui ont été commis dans l'univers doivent recevoir une punition, une rétribution. Sinon, Dieu serait juste à 99,9%, mais pas 100%. Pour que Dieu soit parfait, il doit punir tout péché dans l'univers. Maintenant, vous allez me dire, mais comment peut-on être sauvé alors ? Parce que tout le monde a péché. Eh bien, justement, tout le monde est privé de la gloire de Dieu, tout le monde a péché. Dieu va punir tous les coupables, mais il a fait quelque chose d'extraordinaire. Et il n'y a que la Bible qui révèle cela. Hein ? J'aimerais souligner ce fait. Le salut repose entièrement sur Dieu. Il a décidé de venir lui-même payer nos péchés. Être puni à notre place. Et ça, c'est dans tout l'Ancien Testament où on voit que des animaux sont sacrifiés à la place des hommes pour leurs péchés. Depuis la Genèse hein, jusqu'à Malachie, on voit le temple, on voit les sacrifices d'animaux pour les péchés. Et puis avec Jésus, il est le sacrifice, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Et donc, c'est Dieu qui est à l'origine de notre salut. C'est Dieu le Père qui a décidé de sauver les pécheurs que nous sommes. Parce qu'il aurait pu ne pas nous sauver, il aurait pu dire, franchement, ils ne méritent pas, et c'est vrai, on ne mérite pas, je vais me débarrasser de ces créatures viles, comme on se débarrasserait de cafards hein, dans sa maison. Est-ce que vous aimez avoir des cafards ? Est-ce que vous élevez des cafards chez vous ? Ben, surtout pas. Si je peux les éliminer tous de la terre, je le ferai. Ou les araignées, hein, selon vos préférences. Les cafards aussi, paraît-il. Mais... Dieu aurait pu nous voir comme des cafards. Il aurait pu dire, ce sont des gens vils, des gens qui sont tout le temps en train de faire du mal. Les animaux sont beaucoup plus sains que nous, sont innocents. Les animaux, même quand ils dévorent une proie, c'est par l'instinct, c'est pour se nourrir. C'est extrêmement rare, je ne sais même pas si ça existe, mais peut-être ça existe, mais qu'un animal soit cruelle, c'est-à-dire fasse souffrir quelqu'un, un autre animal, volontairement. Par contre, chez l'homme, c'est tellement fréquent. La torture, le sadisme, la perversion. Dieu aurait pu nous traiter comme des cafards, mais Dieu le Père a décidé de nous sauver. Dieu le Fils a décidé, a accepté de devenir un homme pour prendre notre place, pour souffrir une vie d'homme et souffrir pour nos péchés. Jésus-Christ, Dieu le Fils, a payé le prix complet de notre salut. Il a dit sur la croix, quelle est sa dernière phrase ? Tout est accompli. C'est un mot grec qui veut dire tout est payé. Il a tout payé. Toutes mes fautes ont été payées, punies sur Jésus. C'est pour ça qu'il y a eu 3 heures de ténèbres sur la croix. C'est pour ça que Jésus a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il a été frappé. Et c'est Ésaïe, chapitre 53, qui l'annonçait. Hein, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et ensuite, quand on accepte ce salut, c'est Dieu le Saint-Esprit qui vient le rendre vivant en nous, qui l'accomplit. Parce que si Jésus était mort pour mes péchés, mais que le Saint-Esprit ne venait pas me sauver, on ne serait pas sauvé. On oublie souvent l'œuvre du Saint-Esprit qui vient nous sauver lui-même en venant dans notre cœur et en nous délivrant et en nous transformant. Le salut est donc un cadeau de Dieu. Romains 6, 23. Là aussi, vous devez le connaître par cœur. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le cadeau, le don, hein, le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais la vie éternelle comment ? En Jésus-Christ, qui est notre Seigneur. Ce n'est pas en un certain Jésus dont j'ai entendu parler vaguement. La vie éternelle, c'est en Jésus, le Messie, mon Seigneur. C'est quand je reçois Jésus en disant « Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu, je t'accepte. » Là, on a la vie éternelle. Mais c'est un cadeau, le don gratuit. Cadeau. Il n'y a rien à payer. Alors, quelle est la part de l'homme ? Si Dieu a tout fait, Dieu a voulu nous sauver, Dieu est devenu un homme, Dieu est mort pour nos péchés et le Saint-Esprit vient nous sauver. Ben, nous, on n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Accepter ou refuser. Regardons Marc 1,15. Jésus disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » On n'est pas sauvé comme ça, pff, un jour, toi, ça te tombe dessus, moi, ça ne me tombe pas dessus, et lui, ça lui tombe dessus. Ce n'est pas ça, le salut. C'est qu'on entend la bonne nouvelle, on est touché par le Saint-Esprit, on a une conviction, et là, on dit oui ou non. On répond, oui, je crois, Seigneur, je t'accepte, je veux être sauvé. Ou on dit, oh non, ça ne m'intéresse pas. Pff, moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde, c'est la terre, c'est les plaisirs, les convoitises. Et il y a un choix, là. Et c'est là la part de l'homme d'accepter ce cadeau ou de le refuser. Le pasteur Somerville, hein, souvent, quand il explique le salut à une personne, il prend sa Bible et il dit « Je vous offre ma Bible. Quand est-ce qu'elle sera à vous ?» Ben, quand est-ce qu'elle est à nous ? Quand on la prend, hein, c'est ça ? Quand on la saisit, quand on la prend. Et il dit « C'est pareil avec le salut. Dieu vous offre le pardon de vos péchés. Quand est-ce qu'il sera à vous, ce pardon ? Quand vous serez parfait ? Quand vous serez juste, quand vous serez merveilleux, quand vous irez à l'église ? Non, quand vous l'accepterez. Voilà. Par la foi et comme un cadeau. Et c'est ça, le salut, la part de Dieu et la part de l'homme. Mais il n'y a pas que le salut. Après le salut, il y a quoi ? Il y a la suite. Il y a la marche de Dieu qu'on appelle la sanctification. Hein ? C'est dans la Bible aussi ce terme. C'est-à-dire marcher avec Dieu depuis son salut. Qui est-ce qui nous sanctifie ? Quelle personne de la Trinité en particulier ? L'Esprit Saint, c'est pour ça qu'on reçoit le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. Qui est-ce qui nous sanctifie ? C'est Dieu. Regardez 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Paul prie « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, corps, âme et esprit, irréprochable. » Donc qui est-ce qui sanctifie ? C'est Dieu lui-même. Donc, conclusion, on prend ce verset hors du contexte de la Bible. Je n'ai rien à faire, c'est Dieu qui va me sanctifier. Moi, je vis ma vie tranquille, je fais ce qui me plaît, je prie quand j'ai envie de prier, je vais à l'église quand j'ai envie d'aller à l'église, je m'amuse comme je veux m'amuser. De toute façon, Dieu va me sanctifier. Est-ce que c'est ça le message du Nouveau Testament? Non, pas du tout. Nous avons une part dans la sanctification. Bien sûr, c'est Dieu qui opère la sanctification. Par exemple, nous ne pouvons pas enlever nos propres péchés. On ne peut pas. C'est dans l'Ancien Testament, hein, Jérémie, il dit, est-ce qu'un léopard peut laver ses taches? Ben non. Il dit aux Israélites pécheurs, il dit, même si on vous lavait avec du nitre, avec du vinaigre, ou de la potasse, c'est ce qui servait pour faire la lessive hein, dans les temps antiques, et même il n'y a pas si longtemps que ça, même si on vous lavait avec du nitre, de la potasse, vous seriez toujours aussi sale spirituellement. On ne peut pas effacer nos propres péchés. On peut dire oui, mais je vais m'améliorer, je vais plus recommencer. Oui, mais ça n'efface pas ce que j'ai déjà commis. On ne peut pas effacer. Et il y a des choses qui sont tellement ancrées dans notre caractère, dans notre habitude, dans nos habitudes, qu'il faut une volonté de faire pour y arriver. Et c'est rare quand on peut arriver en toute chose. C'est pour ça que Dieu est celui qui nous sanctifie. C'est lui qui opère cette transformation, cette nouvelle naissance, cette recréation. Mais nous, nous avons notre part. On en voit une partie dans Éphésiens 4, versets 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Alors il y a trois choses là. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Quels sont les trois verbes là, les trois choses que Dieu nous demande de faire? Il y a trois verbes. Dans l'ordre, si possible. Nous dépouiller de quoi? Du vieil homme qui se corrompt. Le vieil homme, c'est notre nature pécheresse qu'on avait avant d'être sauvé et qui, elle, ne peut que pécher. De toute façon, elle ne sait pas faire autre chose. Cette nature, elle aime le péché, elle vit dedans. Donc, il faut s'en dépouiller. Parce que si on dit on est sauvé, si on est né de nouveau, mais qu'on continue avec les anciennes manières de faire de la vieille nature, ben, il ne va pas se passer grand-chose dans la vie chrétienne. On va être un chrétien nain, un chrétien charnel, parce que ben, on va garder notre même caractère. Par exemple, quelqu'un qui est colérique, il va toujours se mettre en colère, il ne va pas se dépouiller de sa colère, parce qu'on a cette part. Seigneur, je veux enlever ça de ma vie. Seigneur, je veux enlever cette attitude, ce péché, cette idole. Deuxième verbe, c'est quoi? Être renouvelé où? Dans quoi? Dans l'esprit de notre intelligence, c'est-à-dire là, c'est l'œuvre de la Bible, de la parole de Dieu et du Saint-Esprit qui nous renouvelle. Avant, on avait une façon de penser, de voir les choses. Le renouvellement, c'est qu'on voit maintenant les choses avec les yeux de Dieu. On voit le péché avec les yeux de Dieu. On voit la vie avec les yeux de Dieu, on voit l'éternité avec les yeux de Dieu, pas avec ses yeux charnels d'avant. Et puis, troisième verbe, on doit revêtir l'homme nouveau. Parce que si on se dépouille et c'est tout, la nature a horreur du vide. Même si ce n'est pas un verset de la Bible, c'est une vérité universelle. Et si on se dépouille du péché et qu'on ne le remplace pas par l'homme nouveau, eh bien le péché va revenir. Ça, c'est évident, et c'est beaucoup de chrétiens sont face à cette situation. Ils essayent de se dépouiller de oh, il faut que j'enlève tous les péchés de ma vie. Et puis, ils ne sont pas en train d'avancer dans leur foi, ils ne sont pas renouvelés, ils ne revêtent pas l'homme nouveau, et du coup, ils retombent dans leurs anciens péchés. Jésus avait parlé aussi de ceux qui balayent hein, la maison des esprits. Il dit, quand vous avez balayé la maison, qu'est-ce que fait l'esprit? Il amène 7 ou 8 copains, et vous êtes pire que la fois précédente. Donc, on n'est pas là pour balayer sa vie. C'est Dieu qui doit balayer, hein? Mais on est là pour revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, d'où il vient l'homme nouveau? De Dieu, il est créé par Dieu. C'est la nouvelle création, vous savez, la nouvelle naissance. Nous sommes une nouvelle créature. Donc c'est Dieu qui crée cet homme nouveau, mais encore faut-il qu'on le revête. Ce n'est pas automatique. C'est ça la part de l'homme, là, dans sa sanctification. Dieu veut qu'on soit comme Christ, qu'on ait le caractère de Christ, qu'on ait la patience, la bonté de Christ, la justice de Christ. Mais il a tout ça en préparation pour nous, comme une sorte de vêtement, si vous voulez, hein. Il a la veste de Christ, il a les gants de Christ, il a le pantalon de Christ pour nous, à notre taille. Mais il faut encore, faut-il le revêtir soi-même. Il faut accepter d'être comme Christ. Il faut dire, Seigneur, je veux ressembler à Christ. Il faut rechercher ça. Si on attend, on dit, ben moi, j'attends que Dieu me pouf, en 3 secondes, il va me transformer. Ce n'est pas ça, la sanctification. C'est un processus avec une obéissance. Un exemple avec le domaine de la tentation, quand on est tenté. Donc, ma convoitise, d'un seul coup, est attirée par une tentation. Et elle commence à se réveiller en moi. Je commence à avoir envie de convoiter une chose que mes yeux ont remarquée. En tant que chrétien, j'ai un choix. Soit je cède à la tentation, soit je résiste à la tentation. Il n'y en a pas 36 des choix. Hein. Si je dis, Seigneur, je suis un chrétien faible, je cède, mais viens à mon secours. Dans sa grâce, Dieu peut nous sauver, hein, de cette tentation et de ce péché, parce que Dieu est miséricordieux. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait au départ. Ce qu'il veut, c'est que les chrétiens ne cèdent pas. Il nous a donné le Saint-Esprit pour qu'on ne cède pas. Pour qu'on résiste, qu'on soit incorruptible. Ma part à moi, dans la tentation, c'est de crier vers Dieu, dire « Seigneur, je sens que je suis tenté, que ma convoitise se réveille. Éteins tout ça, Seigneur, viens à mon secours. » Je dois veiller, je dois prier. Je dois aussi ne pas me mettre dans des tentations. Quelquefois, on se jette soi-même dans la tentation. On va dans des lieux où on ne devrait pas aller, on regarde des choses qu'on ne devrait pas regarder, on s'arrête sur des choses où on ne devrait pas s'arrêter. Il faut vraiment être prudent, veiller et prier. Et puis, on doit fuir. Ça, c'est une chose que le chrétien doit faire, fuir. Alors, on peut dire, oui, mais c'est lâche. Moi, je ne suis pas un lâche. Moi, le péché, je le prends en face, je le regarde. Allez, vas-y, viens m'attaquer. Eh bien, ça, c'est de la folie. Le péché est plus fort que nous. Bien sûr, il y a des péchés qui ne nous touchent pas tellement. Quelqu'un va dire, moi, la cigarette, par exemple, ça ne m'a jamais tenté, mais vraiment, je n'ai jamais fumé. Mes copains m'ont proposé, je n'ai jamais voulu, la drogue encore moins, ou l'alcool encore moins, ou la pornographie, tout ça. Moi, voilà, l'argent, ça ne me touche pas. Très bien, tant mieux pour vous, mais vous avez certainement d'autres péchés, d'autres tentations. Vous, ça va être la colère, l'orgueil, l'égoïsme, peu importe, hein. Et ce n'est pas toujours des choses visibles, justement. L'égoïsme, ce n'est pas comme une cigarette à la bouche. On peut dire, une cigarette à la bouche, ça se voit à 10 km. Mais un égoïste, c'est dans des petites choses de la vie. Hein. Mais pourtant, c'est pire, je pense, aux yeux de Dieu. Donc, il faut fuir. Par exemple, 1 Corinthiens 6, 18, il dit « Fuyez la débauche hein. ». C'est-à-dire, quand on est tenté de tomber dans la débauche, d'avoir des relations sexuelles hors mariage, hein, hors de la volonté de Dieu, il faut fuir. Il ne faut pas s'en rapprocher en disant « Oh là là, ça m'attire, mais non, il ne faut pas que je le fasse. Mais ça m'attire, il ne faut pas que je le fasse. » Non, il faut prendre les jambes à son cou. Et ça, c'est une forme de courage, quelque part. Et une forme surtout de sagesse. Un autre exemple, c'est l'amour de l'argent qu'on trouve en 1 Timothée 6. Ceux qui veulent s'enrichir, ah oui, il y en a beaucoup comme ça, hein, tombent dans la tentation, le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. On peut être possédé par un démon, mais on peut être possédé par l'amour de l'argent. Mais ce n'est pas un démon, hein. C'est l'amour, c'est une idolâtrie. Et là, qu'est-ce que doit faire le chrétien qui est tenté, il y a des gens, c'est ça. Ils veulent de l'argent, et l'argent qu'ils ont, ils veulent le garder, hein. Ce sont des pingres. Vous savez que les plus grands pingres sont les plus riches en général. Il y avait cette personne, hein, en Angleterre, quand elle est morte, enfin, on l'a amenée à l'hôpital d'abord, et puis elle est morte à l'hôpital. C'était une personne qui était un clochard. Vraiment, il vivait dans la rue et il avait des vêtements, des haillons. Et puis on a recherché son identité, on s'est rendu compte que c'était un multimillionnaire. Mais il était tombé dans une folie par peur de perdre son argent. Il voulait ne rien dépenser du tout. Donc il faisait la manche pour ne rien avoir à dépenser. Il voulait même pas sortir un centime de son compte. Là, c'est vraiment l'extrême, hein. Mais il y a des gens qui sont attachés à leur argent ou à l'argent et qui l'aiment. Le chrétien doit savoir, dans ce cas, agir. C'est pas Dieu qui va vous enlever votre argent. C'est à vous d'agir, de dire maintenant comment je vais gérer mon argent. Seigneur, donne-moi la sagesse pour le gérer. Je veux d'abord renoncer à cette idolâtrie, Seigneur. Je jette cette idolâtrie, je n'en veux plus. Je veux que l'argent soit juste pour moi un outil, un moyen. Quelle est la part de Dieu et la part de l'homme dans l'épreuve? Quand on a une épreuve, on a une maladie, on a une difficulté, un obstacle sévère, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit simplement se lamenter? Est-ce qu'on doit dire, Seigneur, sors-moi de là plus vite possible? Et c'est vrai que c'est arrivé que Dieu nous sorte de l'épreuve, hein, très vite, en réponse à la prière. Mais là encore, c'est méconnaître un peu le Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, l'épreuve a un rôle à jouer dans notre vie chrétienne. Et juste prier, « Oh Seigneur, sors-moi de l'épreuve !»« Guéris-moi tout de suite !» par exemple, hein, quand on est malade. C'est une prière tout à fait compréhensible, tout à fait humaine. Franchement, quand on est malade, on n'a qu'une envie, c'est d'être guéri, c'est à moins d'être masochiste, hein. Mais on devrait aussi, avant de prier ça, de dire « Seigneur, accomplis ta volonté dans ma vie à travers cette épreuve. » Parce que Dieu nous aime. Et s'il permet des épreuves, c'est pour accomplir quelque chose. Si on regarde par exemple Romains 5, 3 et 4, il nous dit, nous nous glorifions, nous nous réjouissons des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Il y a d'autres passages, et il y a dans Jacques aussi, hein, il dit, regardez toute épreuve comme un sujet de joie complète. Quand on lit ces versets, on dit, mais il se glorifie des afflictions, mais surtout Paul, quand on sait ce qu'il... C'est les coups de bâton, la prison, la condamnation à mort. Est-ce qu'on peut se réjouir? Est-ce qu'on peut être content? Mais lui, il dit, on s'en réjouit parce que dans ces choses, ça nous amène à persévérer avec le Seigneur. C'est un obstacle et face aux obstacles, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on persévère. Je pense qu'il y a des personnalités aussi qui sont comme ça. Plus ça se complique, plus ils sont motivés. Ils n'aiment pas quand ça se complique. « Ah bon, tu veux me compliquer les choses ? Ben, tu vas voir. » Et ils persévèrent. Il y a des personnes, au contraire, dès qu'il y a un petit obstacle, une petite marche un peu plus haute, ils perdent leurs moyens. On a des personnalités différentes. Mais la foi doit nous permettre d'agir spirituellement, et le Saint-Esprit aussi. Et notre part dans les épreuves, c'est de dire, « Seigneur, je me réjouis que tu es avec moi, je suis dans ta volonté, ta volonté pour l'instant, c'est de me faire passer cette épreuve. Seigneur, je l'accepte et accomplis. Montre-moi ce que... Apprends-moi quelque chose dans cette épreuve. » J'ai encore trois petits points, trois exemples. Quelle est la part de Dieu, la part de l'homme dans les décisions à prendre? Quand on doit prendre une décision. Est-ce qu'on doit laisser tout à Dieu? C'est-à-dire, moi je ne prends aucune décision. C'est Dieu qui décide pour moi. Donc là, on revient un peu au Dieu du destin. Là, hein. Moi, je me laisse couler par le courant. Si le courant m'amène à gauche, je vais à gauche. S'il m'amène à droite, je vais à droite. Ça, c'est très dangereux. Ici, dans Jacques, nous voyons par exemple Jacques 1. Voilà ce qui nous est demandé de faire face aux décisions. Jacques 1, 5 et 6. On peut le lire ensemble. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. La parole de Dieu est simple et claire. Hein? Si je suis dans le doute, c'est-à-dire je ne sais pas si Dieu peut me répondre, je ne sais pas si Dieu peut faire quelque chose, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais me laisser porter par les événements, les circonstances. Et les circonstances ne vont pas forcément m'amener dans la volonté de Dieu. Il y a un moment où Dieu nous appelle à avancer, à choisir, à prendre une décision. Il y a des portes, par exemple, qui sont fermées, comme on dit hein, dans le langage chrétien, et qu'il faut défoncer. On a tendance à dire, si Dieu t'ouvre la porte, c'est dans la Bible, hein, c'est Paul dit, hein, priez qu'une porte nous soit ouverte pour l'Évangile. Donc si la porte est ouverte, fonce! Mais il y a des portes ouvertes qu'il ne faut pas prendre. La porte du séjour des morts, hein, la porte de la mort, la porte large, il ne faut pas la prendre celle-là. Et elle est grande ouverte. Et il y a des portes, ce n'est pas parce qu'elles sont ouvertes que c'est la volonté de Dieu. On doit toujours venir au Seigneur. Seigneur, donne-moi la sagesse dans cette situation. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la décision à prendre? Et après, quand Dieu nous a montré, on avance par la foi. Et là, même si la porte est fermée, même s'il y a un mur à escalader, on y va. Les Israélites devant Jéricho, ils sont trouvés devant un mur, un immense muraille. Et Dieu a dit, eh ben, allez-y, d'abord faites le tour. Bon, c'est une drôle de méthode, alors ils ont fait le tour. Donc ils devaient attendre. C'est dur ça. Quand on est militaire, on n'aime pas attendre. Et ils ont fait le tour une fois, deux fois, hein, et puis le dernier jour de la semaine, ils devaient faire le tour 7 fois dans la journée. Je pense qu'ils ont passé leur journée à marcher autour de la ville. Et ça devait leur apprendre la foi en Dieu et la patience. C'est Dieu qui allait les délivrer, c'est Dieu qui allait ouvrir les portes. Et quand ils ont crié après le 7e tour, qu'est-ce qui s'est passé? Les murailles se sont effondrées. Ils n'avaient plus qu'à rentrer dans la ville comme ça. Donc il y a des murailles dans la vie. Et il faut faire comme Dieu le dit. Des fois il faut tourner autour, des fois il faut rentrer, des fois il faut attendre. Mais il faut faire avec la sagesse de Dieu. La part de Dieu et la part de l'homme dans la prière. Là, c'est plus compliqué des fois parce qu'on se dit, puisque Dieu sait tout à l'avance, pourquoi il nous demande de prier? À quoi ça sert de prier? C'est vrai, au fait. Puisque Dieu peut tout, il est tout puissant. Pourquoi est-ce qu'il attend que nous, on demande des choses? Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on prie? Il sait de quoi j'ai besoin. C'est même écrit dans la parole de Dieu. Tu sais de quoi nous avons besoin avant que nous l'ayons demandé. Alors pourquoi il veut qu'on le demande? Est-ce que vous avez déjà répondu à cette question? Voilà. Pour exprimer notre foi, notre confiance, notre relation avec lui. Imaginez un parent avec son enfant. Et le parent sait de quoi a besoin son enfant, son bébé, surtout hein, si c'est un bébé ou un tout petit. Ben, il sait qu'il faut qu'il mange, il sait qu'il faut qu'il dorme, il faut qu'il boive, il faut le laver, il faut le changer, il faut le protéger, le soigner quand il est malade. Donc on sait, mais imaginez que cet enfant ne vous parle jamais, ne vous dise jamais rien, même qu'il ne pleure pas. Des fois quand il pleure c'est dur, mais s'il ne pleurait pas du tout, ce serait très inquiétant. On veut cette relation, la maman, elle veut avoir cet échange avec son bébé, son petit. Et Dieu veut avoir cet échange avec nous, il veut qu'on lui demande les choses. Et ça fortifie notre foi. Il nous demande de prier pour tous les saints. Et il y a l'exemple dans la Bible d'Abraham, hein, ça, c'est très touchant. Lorsque Dieu vient sous la forme d'ange voir Abraham et lui annoncer qu'il va avoir un fils. C'est le moment où sa femme, Sarah, rit. Quand elle entend cette annonce, elle rigole. Tellement elle trouve ça incroyable parce qu'elle est stérile et ils sont très âgés. Mais à la fin de ça, Dieu dit, en Genèse 18, je pense que c'est après, voilà. L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre est monté vers moi. C'est pourquoi je vais descendre pour savoir s'ils ont agi entièrement. Et Dieu dit, je vais descendre pour juger hein, Sodome et Gomorre. Et que fait Abraham lorsque Dieu lui raconte tout ça? Dieu lui dit, voilà, je vais aller là où est ton neveu, hein, Lot, et je vais amener un jugement sur ces villes. Abraham dit, mais Seigneur, s'il y avait 50 justes, est-ce que tu ne sauverais pas la ville pour les 50 justes? Oui. Et s'il y avait 25 justes, et puis il descend comme ça, hein, Abraham, ce n'est pas une négociation avec Dieu, mais c'est une forme de prière, d'intercession. Parce qu'il pense à Lot, il pense à son neveu, il aime son neveu. Même si son neveu a fait le choix d'aller à Sodome et Gomorre, c'était de se séparer de lui, il l'aime et il intercède, il veut qu'il soit sauvé. Et il descend, je pense, jusqu'à 5. Et à Sodome et Gomorre, il n'y avait même pas 5. À part Lot, et bon, sa famille a été prise avec lui, hein, même pas sa femme. Hein. Il y avait 4, hein, voilà. Et voilà, il n'y avait justement pas 5. Eh bien, Dieu a quand même envoyé des anges pour sauver Lot, pour le prévenir, hein, afin qu'il soit sauvé, lui et sa famille. Mais cette intercession d'Abraham, c'est notre rôle à nous aujourd'hui. Parce qu'il va y avoir un jugement sur le monde et on doit prier, intercéder. Dieu sait, Dieu veut sauver le monde, mais il demande qu'on intercède comme Abraham. Seigneur, aie pitié de ce peuple français, aie pitié de ce monde, aie pitié de ces gens, ces djihadistes qui massacrent tout le monde. Priez pour le salut des âmes. Et puis je termine avec l'évangélisation. Quelle est la part de Dieu, la part de l'homme dans l'évangélisation? Dieu nous appelle à ouvrir les yeux. C'est dans Actes 26, c'est l'appel de Paul où il dit « Je t'envoie vers ce peuple afin que tu leur ouvres les yeux ». C'est une grande responsabilité, ça. Comment Paul pouvait ouvrir les yeux des gens? En prêchant le message de la croix de Jésus-Christ, que Jésus est le Messie. Mais est-ce que c'est nous qui sauvons les gens? Non. Est-ce que nous avons une puissance quand nous parlons aux gens? Voilà. Quelles sont les deux sources de la puissance de Dieu dans l'évangélisation? Il y a deux sources. Le Saint-Esprit, acte 1, qui dit... Je vous recevrai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mes témoins. La puissance du Saint-Esprit est venue pour qu'on soit des témoins. C'est-à-dire qu'on témoigne de notre foi. Et la deuxième puissance, c'est l'Évangile lui-même. Romains 1, 16. Car l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il y a une puissance dans le message lui-même de l'Évangile et dans le Saint-Esprit qu'il applique aux gens. Mais nous, nous devons le prêcher, cet Évangile. Dieu ne sauve pas les gens comme ça, encore une fois, tout seul. Il faut que quelqu'un prêche. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Romains, hein, chapitre 10. Et c'est à nous aussi de faire notre part dans l'évangélisation. Bien sûr, c'est Dieu qui a tout fait pour le salut. Mais maintenant, nous avons notre part de chrétiens, d'être des témoins dans la puissance de Dieu. Pardon d'avoir été un peu plus long. On va terminer par la prière et puis par un chant.